Sophie Oksanen, née d'une mère estonienne et d'un père finlandais, a écrit en 2023 le livre « Deux fois dans le même fleuve, la guerre de Poutine contre les femmes ». En voici des extraits, suivis d'un court poème de Vassil Stous, poète et journaliste ukrainien mort au Goulag en 1985, extrait du recueil « Poésie choisie ». C'est lu donc par Martine Dupé et Eric Kerken.
Nous ne saurions entrer deux fois dans le même fleuve, car ce n'est déjà plus le même fleuve, et nous ne sommes plus nous-mêmes, Héraclite. Au printemps 2023, j'ai donné un discours sur la guerre de Poutine contre les femmes. La violence sexuelle exercée en Ukraine est une composante essentielle du génocide visant les Ukrainiens. Sur le plan intérieur, la misogynie protège le régime en empêchant les femmes d'accéder au pouvoir. À l'international, c'est un instrument d'impérialisme. Cette instrumentalisation de la haine constitue une menace mondiale pour les droits des femmes et des minorités. Les minorités ethniques de Russie sont totalement invisibles à l'Ouest. Tout d'abord, il faut en finir avec cette tradition d'impunité de la Russie qui rend possible les crimes de guerre. Alors, ne soyez pas indifférents. Ne détournez pas le regard. Quand la violence sexuelle devient une arme, ma grand-tante n'était pas muette de naissance. Au début de la seconde occupation soviétique de l'Estonie, elle fut emmenée pour subir toute une nuit d'interrogatoire, après quoi elle cessa définitivement de parler. En rentrant à la maison le matin, elle paraissait à peu près en forme, mais elle ne dit plus jamais rien d'autre que « Ya, erre, oui, arrêtez ». On pouvait lui demander n'importe quoi, sa réponse était toujours « Ya, erre, oui, arrêtez ». Elle ne se maria pas, n'eut pas d'enfant, ne fréquenta personne. Elle passa le restant de ses jours seule avec sa mère. J'ai entendu l'histoire de ma grand-tante dans mon enfance. Tous comprenaient ce qui s'était passé au cours de ces interrogatoires. Moi aussi, je comprenais. Ma grand-tante n'obtint jamais justice. Les pays occidentaux n'incitaient pas à ce que justice soit rendue comme ils l'avaient fait vis-à-vis de l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Il était plus important de serrer la main à Poutine et blanchir l'argent taché de sang, volé au peuple par les oligarques. Du point de vue estonien, la guerre en Ukraine donne l'impression de revivre les événements des années 1940, comme si on appuyait tout le temps sur le bouton « replay », car la Russie utilise la même feuille de route que dans ses précédentes guerres de conquête. Nous avons connu les mêmes pratiques qu'en Ukraine. La terreur visant les civils, déportation, torture, russification, propagande, simulacre de procès, élections truquées, culpabilisation des victimes, flot d'exilés, destruction de la culture. Toutefois, la réaction des Occidentaux a révélé que cette feuille de route de l'impérialisme russe était méconnue. Voilà pourquoi il est nécessaire de parler des crimes de guerre antérieurs, pourquoi il faut les juger. La Russie n'a jamais été étudiée sous l'angle du colonialisme, même à l'école. On détruit un peuple en détruisant la mémoire. Au mur de mon bureau, il y a une photo, noire et blanc, de ma grand-tante à l'époque où elle parlait encore. C'est une photo prise au temps d'un État liquidé. Cela suffisait à la rendre suspecte, cette photo. Pour l'emporter en Finlande, nous avons dû attendre le début des années 90, lorsque l'Estonie a recouvré son indépendance. L'Union soviétique cherchait alors à détruire mon souvenir des territoires qu'elle occupait, y compris ma mémoire visuelle. À présent, la Russie fait de même dans les régions qu'elle a conquises en Ukraine. Au début de la vaste offensive russe, il y a 22 ans, était à Kramatorsk avec sa mère et sa sœur. Ils étaient là le 8 avril lorsque la Russie a bombardé la gare pleine de civils. Les trois fugitifs ont tenté de partir en voiture, mais leur voyage a pris fin au point de contrôle russe. Les soldats ont trouvé sur le téléphone d'Ilya une photo où il tenait un drapeau ukrainien à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance. Ilya a subi des violences sexuelles de la part de 8 soldats de l'armée russe qui ont filmé leurs actes, 10 février 2023. Il n'a été libéré qu'après des semaines de torture. Son seul crime était d'avoir conservé un souvenir sur son téléphone. Les tragédies d'Ilia et de ma grand-tante ont en commun les mobiles de leurs agresseurs qui n'ont pas changé au fil des décennies. La Russie utilise la même arme de génération en génération et pour les mêmes raisons, déshonorer la victime, écraser la résistance. et asseoir sa position dominante, chaque cas étant un avertissement pour les autres. Mikhail Romanov, 32 ans, est père, époux et soldat de l'armée russe. Au printemps 2022, il s'est introduit dans une maison de Bohdanivka dans la région de Kiev. Il a tué le propriétaire et violé sa veuve. Le crime a duré des heures. L'enfant de Romanov a le même âge que le fils des victimes qui pleurait dans la pièce voisine. Les troupes russes qui ont attaqué l'Ukraine se sont systématiquement rendues coupables de violences sexuelles à l'encontre de civils de tout âge, indépendamment du sexe. Les preuves amassées par les observateurs et chercheurs étrangers révèlent des actes terrifiants. Les viols sont souvent publics. Des parents ont dû regarder le viol de leurs enfants, les enfants celui de leurs parents. Certaines victimes ont été violées à mort. La violence sexuelle traumatise, brise des familles et des communautés entières pour des générations. Elle bouleverse la structure démographique. Voilà pourquoi la Russie utilise toujours cette arme ancestrale. Les blessures apparentes ont une fâcheuse tendance à rappeler les aspects destructeurs de la guerre, pas les violences sexuelles. Dans le cas de l'Ukraine, il y a lieu de se demander si ce ne serait pas aussi un instrument de génocide. Voici ce que m'a confié une des victimes. Tous les contacts physiques sont devenus douloureux, même les embrassades. Je ne peux pas oublier que le sexe est devenu un instrument de violence. Notre ennemi, c'est l'ordure qui veut détruire ce que nous avons de plus intime dans la vie. Nous ne pouvons pas vous conquérir, alors nous allons vous empêcher de créer la génération suivante. Ma grand-tante n'a jamais raconté ce qui lui était arrivé. Beaucoup se taisaient à l'époque des guerres en Tchétchénie et en Syrie. Beaucoup se sont tus en Crimée et dans les États fantoches d'Ukraine orientale, contrôlés par la Russie depuis 2014. Dans la prison d'Isolatsia, encore en activité, supervisée par le FSB, ancien KGB, et connue comme le Dachau du Donbass, on y pratique des castrations, la torture des prisonniers est permanente et les viols quotidiens. Il existe plus de 160 prisons illégales de ce type dans la région. Lorsque Beth Rigby interviewait Olena Zelenska en novembre 2022, elle lui a demandé le nombre de viols commis par l'armée russe. Cependant, ce décompte ne dit pas combien de personnes sont touchées indirectement et les femmes ne sont pas toujours en mesure de dire combien de fois l'acte a été commis, combien étaient les agresseurs. Les actes peuvent s'enchaîner pendant des jours, des semaines, des mois. Les victimes sont souvent droguées ou enfermées dans une cave. Malgré cela, les journalistes veulent connaître les chiffres. Le silence des victimes est compréhensible. La peur de tomber sur leurs agresseurs tortionnaires ou violeurs est une réalité en Ukraine occupée. L'officière ukrainienne Yulia Goronchaska a rapporté « Si je révélais la vérité sur ce qui s'était passé, ils iraient mettre la main sur tout ce que j'aime. » Une personne m'a écrit « Je ne comprends pas pourquoi la Russie bombarde des maternités et viole des civils en Ukraine. Pourquoi font-ils cela? Est-ce que quelqu'un comprend ?» Une des réponses est qu'il est plus facile de frapper des cibles immobiles et que le viol ne requiert pas de compétences de combat ou d'équipements militaires sophistiqués. Les médias officiels russes, après le bombardement de la maternité de Mariupol, ont commenté l'événement jusqu'à dire que les femmes mortes et mutilées avec leurs bébés dans les bras étaient des actrices ukrainiennes qui se mettaient en scène. La propagande de Poutine ou comment renverser les responsabilités? En Russie, l'intention génocidaire se manifeste dans les discours étatiques et dans les médias qui ne cessent de répéter que l'Ukraine n'est pas un État et que les Ukrainiens n'existent pas. Tuer des civils n'est plus un problème une fois qu'on n'est plus tenu de les traiter comme des humains. Les consignes de Poutine pour l'opération spéciale en Ukraine détournent l'objectif réel de cette guerre terrifiante. L'agresseur devient le libérateur. Il est difficile d'y croire quand on massacre ainsi les civils. Cela dit, l'ignorance des soldats russes n'est pas un avis de non-responsabilité. Elle ne justifie pas la violence, ni les pillages, ni les actes de l'homme violeur qui a arraché les vêtements de Vera, une enseignante à la retraite de 83 ans. Le Kremlin a qualifié la grande offensive russe en Ukraine de mission de dénazification, sans doute parce que Poutine a trouvé plus efficace d'employer la rhétorique nazie lorsque le message s'adresse à l'Ouest. Des journalistes occidentaux sont partis à la recherche de dangereux individus d'extrême droite en Ukraine. Il faut rappeler qu'en 2014, lors de l'invasion de la Crimée, 14 des 24 partis d'extrême droite en Europe étaient ouvertement alliés à la Russie. Quand la propagande raconte des histoires de nazis, le russe lambda n'a pas les mêmes associations d'idées que le journaliste occidental. Pour lui, il n'est pas question de massacre de juifs en Union soviétique. Le sujet est tabou. Dénazifier signifie éliminer les gens qui cherchent à critiquer la Russie. Moi, Ilia de Kramatorsk, ma grand-tante restée vieille fille, Vera la retraitée et la femme veuve violée par Mikhail Romanov, nous ne semblons pas avoir de dénominateur commun. Cependant, nous partageons tous une même chose. Nous ne sommes pas russes et par conséquent, du point de vue de la Russie, nous sommes nazis. Je ne peux pas prendre à la légère cette expression de dénazification. Cela me ferait le même effet que si l'on rit de blagues sur les camps de concentration, si l'on traite les femmes violées de putains. Le langage ne doit pas servir à justifier la persécution. Le poète Lev Rubinstein a dit « La propagande est la mort du sens. Les mots sont des actes. Les crimes de guerre commencent par des mots qui créent une réalité. C'est seulement en engageant les moyens pour enquêter sur les crimes et en ne perdant pas le sujet de vue que nous montrerons aux victimes que nous ne sommes pas indifférents à ce qu'elles ont subi, que leurs histoires sont importantes, que la Russie n'atteindra pas son but, que l'agresseur n'obtiendra pas le silence escompté. Le silence et la honte ne rendent pas justice. » En 2021, l'ONG Mémorial a été proclamée agent étranger et a été dissoute par la Cour suprême de Russie pour avoir enquêté sur le sort des victimes des persécutions. Irina Anatolievna Fligue décrit l'interruption de leurs travaux en Russie. « Nous ne sommes pas en train d'assister à un processus d'oubli. En fait, nous avions mal compris depuis le début. Nous pensions enregistrer la mémoire historique, mais la mémoire historique ne peut exister que s'il existe une frontière nette qui sépare le présent du passé. Or, nous n'avons pas cette rupture. Il n'y a pas de passé, seulement un présent continu. » Sophie Oksanen, Helsinki, 18 août 2023.